les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour une émission spéciale aujourd'hui, puisque nous sommes au cœur du triangle d'or du Poitou, ici à l'appui, au cœur du XIIe siècle, donc de cet ancien prieuré Fontevrise du XIIe siècle, pour une balade d'une heure ensemble, tranquillement, pour découvrir ces lieux et puis vous amener peut-être à les visiter prochainement. Pour la petite histoire, on aurait pu remonter, je vous parle du XIIe siècle, on aurait pu remonter beaucoup, beaucoup plus loin. C'est ce que j'aime à dire aux enfants lorsqu'ils viennent visiter ces lieux au moment des journées du patrimoine, c'est que l'on pourrait remonter pratiquement jusqu'à 300 millions d'années, ce qui ne nous rendrait pas forcément service pour cette émission, puisqu'on aurait à ce moment-là 30 à 40 mètres d'eau au-dessus de nos têtes. Nous sommes ici au cœur d'une mer intérieure, en fait, qui s'étendait du massif armoricain jusqu'au massif central. Alors si je vous en parle, c'est pas tout à fait par hasard, c'est parce qu'en fait, au cœur du triangle d'or du Poitou, donc, vous avez des vestiges de cette période, une falaise, les falaises de la Guignoterie, un site d'escalade qui se situe sur Saint-Pierre-de-Maillé, au bord de l'Anglin. Vous pouvez y aller, c'est magnifique à escalader, ça c'est certain, je n'en doute pas. C'est surtout magnifique à visiter, avec une balade au bord de l'Anglin, avec des grottes aussi, où vous pouvez aller avec les enfants, un lieu magnifique à découvrir. Ce sont donc les falaises, les rochers de la Guignoterie, à Saint-Pierre-de-Maillé. Voilà pour la présentation des lieux. Alors le triangle d'or du Poitou, c'est Chauvigny, c'est Angle-sur-Anglin, c'est Saint-Savin. Chauvigny, c'est une cité médiévale du XIIe siècle, magnifique, avec ses quatre châteaux et sa collégiale sur un piton rocheux. Angle-sur-Anglin, ce sont des sculptures pariétales de 15 000 ans, un abri sous roche sculpté, donc 15 000 ans d'histoire, c'est un peu le Lascaux de la sculpture. Saint-Savin, c'est le seul site dans la Vienne classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses fresques, ces magnifiques fresques situées à 17 mètres de haut à découvrir. Vous pouvez d'ailleurs écouter le podcast que nous avions fait il y a quelques temps à ce sujet, donc sur la visite en compagnie de Jean-Luc Dorchy. Voilà donc pour la présentation du Triangle d'Or. On est ici donc pour une balade d'une heure au cœur de la congrégation des Filles de la Croix, au sein de l'ancien prieuré fontevriste du XIIe siècle. Alors un peu d'histoire peut-être, si vous voulez, par rapport au lieu. De l'appui commence en fait il y a quelques années maintenant, il y a 900 ans, au XIIe siècle, au début du XIIe siècle. On est aux alentours de 1102, 1103, 1104 environ, on n'a pas d'archives exactes, mais c'est à peu près la période, juste après la création de l'abbaye de Fontevraud, donc au nord de Loudun, par les moines et moniales fontevristes de Robert d'Arbrissel, accompagné par Pierre II, qui était alors évêque de Poitiers. Pierre II qui avait des terres sur l'appui et qui a proposé ensuite, avec d'autres, aux moines et moniales fontevristes de créer leur premier prieuré, ici même, donc sur ces terres, des terres qui étaient assez difficiles, qui n'étaient pas cultivables, des terres qui étaient en fait un véritable marécage, qu'il a fallu assécher. Alors lorsqu'on est ici, sur l'appui, on s'aperçoit qu'il y a, quelques collines. Alors il y a aussi beaucoup de maisons aujourd'hui, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a, quelques collines, et ces collines sont importantes, puisque vous avez celles qui ont permis, par leur source, d'amener l'eau au petit étang, ce qu'on appelle aujourd'hui le petit étang. Les moines sont arrivés, ont créé une digue, ont créé le petit étang justement à ce moment-là, ont asséché ainsi une partie du marécage. De l'autre côté, vous avez un étang, le grand étang, vous vous en doutez, l'étang de Préguillon, qui se situe à 1 km environ du village. Un étang créé là aussi par les fontevristes au début du XIIe siècle, qui a longtemps appartenu ensuite à la congrégation des Filles de la Croix, qui a été revendu il y a quelques années à la Fédération départementale de pêche, pour y faire une aire de loisirs, de pêche, de détente. Voilà, ce grand étang donc permettait de récupérer, et permet toujours d'ailleurs, de récupérer les eaux de ruissellement qui nous viennent de Pézelsec, donc situées à 8 km de là, permet de canaliser l'ensemble, d'éviter que le centre-bourg ne se transforme en marécage, et puis en même temps, ce qui nous permet d'alimenter l'Auzon, puisque le petit étang et le grand étang de l'appui sont les sources de cette rivière, les sources de l'Auzon qui se jette du côté de Châtellerault. Alors je vous ai parlé du petit étang, du grand étang, mais il faut savoir que le réseau hydraulique de l'appui est beaucoup plus important que cela, puisque nous avons trois autres étangs qui sont aujourd'hui sur le domaine privé. C'est celui des Duranderies, celui de la Logerie et celui du Pignet, qui permettait de l'élevage, qui permettait de pêcher le poisson, qui permettait tout simplement aux moines et moniales de s'alimenter en toutes circonstances. Nous sommes ici, donc je le disais, au cœur du Triangle d'Or, au cœur de l'ancien prieuré fontevriste du XIIe siècle de l'Appui, un lieu magnifique que je vous propose de visiter, certainement, enfin à mon avis, mais j'habite le secteur, donc je ne suis pas forcément le mieux pour en parler. C'est certainement, à mes yeux en tout cas, l'un des plus beaux monuments de la Vienne, de par son architecture bien sûr, mais de par son histoire aussi. Alors bien évidemment, il existe d'autres prieurs et fontevristes, hein, autres que celui de l'Appuy. Celui de l'Appuy a quand même une particularité, c'est d'être le premier créé donc à l'Appuy. Alors d'autres ont suivi ensuite, hein, celui de Gaines, celui de Lencloître, celui de Ville-Salem, aujourd'hui bien national. Mais le seul à avoir été construit dès l'origine selon les mêmes caractéristiques que l'abbaye de Fontevraud, ben c'est celui de l'Appuy avec quatre corps de bâtiment. Vous avez Saint-Jean de l'Abbaye donc, qui se situe à côté du petit étang, le petit étang qui porte le nom de l'étang de l'Abbaye. Donc Saint-Jean de l'Abbaye qui permettait d'accueillir les moines fontevristes. Vous aviez Saint-Lazare pour les malades, les lépreux. Sainte-Madeleine pour les jeunes filles qui voulaient se convertir, hein, les converses. Et vous aviez enfin le Grand Moustier, le grand monastère, et là pour accueillir les femmes, les moniales. Et c'est ce monastère, ce Grand Moustier, aujourd'hui, cette congrégation des Filles de la Croix que je vous propose de découvrir en compagnie de Sœur Annie. Il vous amène peut-être, je l'espère en tout cas, à venir visiter ces lieux qui sont franchement magnifiques à découvrir avec un circuit. Nous allons aller de l'ancien pressoir jusqu'au jardin, les jardins pourquoi pas. Nous allons visiter le petit cimetière, nous irons du côté de la chapelle des Saints, du côté du cloître, du côté de la grande chapelle, voilà pour la visite. Eh bien écoutez, je vous propose une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Sœur Annie.
Divine tendresse, dont tu combles les tout petits enfants, je veux aussi recevoir tes caresses. Donne-moi tes baisers ravissants pour jouir dans les cieux de ta douce présence. Je saurai pratiquer les vertus de l'enfance. Tu nous l'as dit souvent. Le ciel est pour l'enfant. Rappelle-toi, rappelle-toi que sur d'autres rivages, les astres d'or et la lune d'argent, que je contemple en l'azur sans nuage, on réjouit jamais tes yeux d'enfant, de ta petite main qui caressait Marie. Donner la vie, que tes biens sont à moi, mon bien-aimé, mon roi. Rappelle-toi. Rappelle-toi que dans la solitude, tu travaillais de tes divines mains. Vivre oublié fut ta plus doucitude. Tu rejetas le savoir des humains. Toi qui d'un seul mot pouvais charmer le monde. Tu te plus à cacher ta sagesse profonde. Sur la terre, te consoler de l'oubli des pécheurs. Mon seul amour exauce ma prière. Pour t'aimer, donne-moi mille cœurs. Si tu t'endors aussi lorsque l'orage gronde, je veux rester toujours en une paix profonde. De mon désir brûlant. Chaque instant, rappelle-toi, rappelle-toi,
sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins traversent pour cette émission spéciale aujourd'hui consacrée à la congrégation des filles de la Croix installée ici à l'appui depuis le début du 19e siècle. Sœur Annie, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Heureux d'être ici avec vous. Alors, on se connaît, on peut le dire, on se connaît maintenant depuis quelques années. On est ici au sein de l'oratoire, hein, l'oratoire des filles de la Croix. L'intérêt de ce lieu, en fait ?
Alors, ce lieu est marqué par des traces de l'histoire, la vie de ce monastère. Il dit l'universalité aussi.
C'est un lieu qui permet d'accueillir les familles, en fait.
Qui permet d'accueillir les familles, les groupes qui viennent pour des journées de réflexion, des journées de solitude.
Ouais, c'est un ancien pressoir.
Hein. Un ancien pressoir, tout à fait. Oui.
Qui a été créé par les filles de la Croix, historiquement. Il a été créé à l'arrivée des filles de la Croix il y a 200 ans, je crois.
Hein, oh, certainement, oui.
Certainement,
oui.
À ce moment-là.
Certainement.
L'intérêt des lieux, c'est qu'on voit qu'il y a des photos hein, sur les murs, des photos des deux fondateurs, je pense, hein, de la congrégation.
Alors, des deux fondateurs, André Hubert et Jeanne Elisabeth.
L'histoire un peu de ces fondateurs qui se sont rencontrés alors, dans une grange. C'est
dans une grange au cœur de la Révolution française, voilà. Pendant la Terreur, en 1797.
Voilà, avec André Hubert qui était donc un prêtre de Maillé.
Alors, André Hubert, prêtre de Maillé. Qui, à l'heure de la rencontre avec Jeanne-Élisabeth, était un prêtre proscrit, qui était obligé de se cacher pour célébrer des messes. Et il célébrait beaucoup de messes clandestines, notamment dans des granges, au Marcilly, à Saint-Pierre-de-Maillé.
Exactement, il avait été obligé de fuir, je crois, en Espagne pendant
Espagne,
un certain temps.
Durant 5 ans.
Voilà, et la rencontre s'est faite avec Jeanne-Élisabeth, qui était une noble, du Blanc, je crois, qui
est née au Château des Âges, au Blanc.
Au Blanc, qui est venue s'installer avec sa mère après la Révolution. De la Révolution du côté de Béthine.
À la Guémetière, à Béthine, voilà. Tout à fait.
Et la rencontre s'est faite au Marcilly.
Au Marcilly, en 1797. Et ce qui est touchant, c'est que cette rencontre-là se fait dans la nuit, pendant la Terreur. André Hubert poursuivi par les révolutionnaires qui célèbrent la messe et qui ne peut donc pas exercer son ministère. Et Jeanne-Élisabeth qui veut, elle, être religieuse. Les monastères sont fermés et les deux se trouvent dans une impasse.
Voilà. L'arrivée ce soir-là s'est faite un peu bizarrement, on peut dire, hein, puisque tout le monde s'est écarté, je crois.
Alors, quand Élisabeth, bichet des âges, entre dans la grange, la petite assemblée qui pressent que c'est une grande dame s'écarte pour la laisser passer. Et André Hubert la reçoit assez sèchement pour cette première rencontre et lui dit « Mais madame, vous ne pensez pas que je vais laisser ces simples gens pour vous écouter ?» Il y a ici des mères de famille fatiguées, il y a des adultes qui viennent de loin. Et Jeanne-Élisabeth dira, j'attendrai le temps qu'il faudra, je passerai après eux. Et elle a attendu 5 heures.
Elle a attendu 5 heures dans le noir, dans le froid. À quel moment c'était ? Vous avez la date de la rencontre ?
On dit que c'est en décembre, mais je ne peux pas l'affirmer, je ne sais pas.
D'accord, la grange a aujourd'hui disparu, elle a resté très longtemps en fait en Marcilly, elle a aujourd'hui disparu. Il y a des vestiges, on ira tout à l'heure au niveau de la grande chapelle.
Tout à fait, oui. Voilà. Il y a une poutre qui rappelle qui vient de cette grange des Marcilly où André Hubert a célébré l'Eucharistie.
Alors il y a eu cette rencontre, il y a eu la suite ensuite, hein, puisque oui. Deux choses. Il y a eu d'abord au niveau de, si on parlait un peu de l'escalier du Bon Père hein, du côté de Saint-Pierre-de-Maillé.
Oui, alors à Saint-Pierre, nous avons 3 lieux à Saint-Pierre-de-Maillé qui sont aussi importants que l'appui. Il y a un escalier, un presbytère. À Saint-Pierre-de-Maillé, un escalier, et qui est l'escalier pour nous de la rencontre où André Hubert a été saisi par la rencontre, qui menait une vie de prêtre, un bon prêtre qui célébrait, mais qui a été transformé, qui a été bouleversé par la rencontre d'un pauvre qui est venu frapper à sa porte, qui demandait de l'argent. André Hubert dit « Je n'ai pas d'argent », et le mendiant lui dit « Mais comment vous n'avez pas d'argent ? Votre table en est couverte ». Et c'est le moment du bouleversement d'André Hubert qui sent un peu l'incohérence de sa vie entre la parole qu'il prêchait et ce qu'il vivait. Et dorénavant, il vendra tout et il reconnaîtra dans toute personne rencontrée le visage du Christ.
Et là, c'était donc avant la rencontre avec Jeanne-Élisabeth.
Oui, c'était avant la rencontre, une quinzaine d'années avant la rencontre avec Jeanne-Élisabeth.
Voilà, puisqu'il y a deux autres lieux dont vous parliez, hein, deux lieux importants pour la congrégation, c'est la grotte.
La grotte de la femme cancéreuse, d'où Élisabeth un jour entend des cris en passant dans un sentier, entend des cris, s'arrête et sort d'une grotte, du fond d'une grotte, une femme rendue folle par la douleur, par la détresse, exclue. Elle la retire de cette grotte pour l'amener chez elle. Elle la soignera durant plusieurs semaines jusqu'à sa mort.
La création de la congrégation des filles de la croix s'est faite dans la douleur, on peut dire, quelque part, puisque je crois que André Hubert a rappelé Jeanne-Élisabeth qui était partie dans un couvent à Poitiers à l'époque pour lui demander de venir la rejoindre.
Oui, Élisabeth donc, était allée à Poitiers pour se former, pour être religieuse, et elle reçoit une lettre très forte d'André Hubert qui dit toute l'origine, c'est « Que faites-vous, madame ?» à Poitiers, dans ce havre de paix. Il y a ici des enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Il y a des malades qui ne sont pas soignés. Il y a des vieillards qui meurent seuls. Hâtez-vous de venir ici. Dieu vous appelle au combat. Et je crois que ça dit toute notre origine et ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Cette présence, ici et maintenant, en ouvrant les yeux et le cœur à toute détresse ou à toute vie, pour être proche. Et pour dire quelque chose de l'amour de Dieu pour chacun.
Exactement, avec une congrégation qui a fait énormément de choses, on peut le dire, alors qui est assez mal connue, mais il faut dire qu'à la fin du 19e siècle, c'était 286 écoles dans toute la France qui étaient gérées par la congrégation des Filles de la Croix.
Oui, tout à fait.
Donc on est parti de rien pratiquement, oui, pour arriver à quelque chose de phénoménal.
Il y a eu très vite un grand essor, parce que la misère était grande, et la passion d'André Hubert et de Jeanne-Élisabeth, et puis de ses premières compagnes. Il y a eu vraiment un rayonnement qui fait que la congrégation s'est très vite agrandie.
Exactement, donc avec André Hubert, avec Jeanne-Élisabeth, avec cinq sœurs, je crois, qui les ont accompagnées dès le départ.
Alors, cinq premières sœurs. Et ce qui est caractéristique des origines, c'est que parmi les cinq premières sœurs, il y avait Marie-Anne, la petite servante de Jeanne-Élisabeth, qui ne savait ni lire ni écrire. Et Jeanne-Élisabeth dira, ce qui est révolutionnaire pour l'époque, « Dans cette communauté, on ne portera que le nom de sœur, y compris celle qui préside. » Et la petite Marie-Anne appelait Élisabeth sœur, et Élisabeth appelait sa servante sœur. Et cette fraternité, cette simplicité de relation, est vraiment un très bel héritage laissé par Jeanne-Élisabeth.
Donc avec une congrégation qui a trouvé un véritable sens avec la miséreuse, vous le disiez tout à l'heure, avec la cancéreuse qu'il a fallu soigner et accueillir depuis ce temps-là. Donc les sœurs accueillent les malades.
Oui. Alors il y a l'accueil des malades, mais il y a aussi tout de suite 33 orphelines qu'Élisabeth accueille dès le départ dans sa maison. Et l'éducation, le soin est vraiment à l'origine de ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, le charisme de la congrégation.
Vous me parliez tout à l'heure de trois lieux importants. Donc on a parlé de l'escalier du Bon Père, on a parlé de la grotte. Le troisième, c'était ?
C'est la rencontre, les Marcillis. La rencontre dans cette grange des Marcillis d'André Hubert et de Jeanne-Élisabeth.
D'accord. Voilà pour l'histoire de la congrégation. Une congrégation donc, qui a trouvé sa force jusqu'à la fin du 19e siècle. Il a fallu ensuite, avec les lois anticongrégationnistes, changer un peu son fusil d'épaule quelque part. Et vous êtes ensuite allé dans le monde entier. Vous êtes aujourd'hui représenté dans combien ? Dans 8 pays, je crois.
Le monde entier, il ne faut pas être prétentieux. Nous sommes en France, Espagne, Italie, Canada, Argentine, Brésil, Côte d'Ivoire, Burkina Faso,
Thaïlande, vous étiez à une époque,
en Thaïlande aussi, mais pour le moment nous n'y sommes plus.
D'accord, donc beaucoup d'endroits, ce qui permet justement, nous sommes ici dans l'oratoire et ça permet de le rappeler puisqu'on a toutes ces petites saintes qui représentent les différentes congrégations, c'est ça en fait.
Oui, ce sont des statues de la Vierge Marie qui représentent les pays où nous sommes implantés.
D'accord, bah écoutez, je vous propose de quitter l'oratoire, une pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Je vous ai vu en Angleterre et entendu dans d'autres airs votre nom souvent volé vers moi. Dans mes 15 août en bord de mer et mes 15 ans dans la lumière sur les écrans blancs cinéma. Je vous salue où que vous soyez, dans les avenues ou dans les avées, dans ces voix qui lancent des arias. Sur un balcon ou dans le ciel, et cette chanson, c'est mon échelle pour venir vous avouer cette fois. Pleure ou en couronne, en madone ou en garçon.
fille des joies et des calvaires, vous êtes la voix de ma grand-mère dans son jardin bordé d'hortensias. Vous êtes sacré dans mon profane, vous êtes aimé en anagramme, vous passez parfois devant chez moi. Marie en pleurs ou en couronne, en madone ou en garçonne. Entendez la prière qui résonne pour Marie sonne qui jalonne ma vie d'enfant, ma vie d'homme.
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission au cœur du triangle d'or du Poitou et de son ancien prieuré fonteuriste de l'Appui, devenu depuis la Révolution congrégation des filles de la Croix. Nous sommes là sur le perron, dans la cour principale. Nous sommes face à deux bâtiments religieux, l'église paroissiale et la grande chapelle que nous allons visiter tout à l'heure. L'histoire, un peu, vous pouvez la résumer. Cette grande chapelle a été construite en lieu et place d'un ancien bâtiment fonteuriste du XIIe siècle qui a été déconstruit.
La chapelle qui a été construite au XIIe siècle, qui a été démolie dans les années 1868-70. Qui a été reconstruite avec les pierres de fondation de cette chapelle. On a construit l'église du village qui est en face dans la rue.
Voilà. Reconstruite selon les mêmes plans, les plans fonteuristes du XIIe siècle. Voilà, on va se diriger en direction le jardin. On a derrière nous un arbre qui est un séquoia. L'histoire de ce séquoia, vous la connaissez un peu ?
Ce séquoia vient de Californie. Il a une centaine d'années.
Alors nous sommes là dans les jardins alors de plantes aromatiques. Nous sommes aussi au pied d'un cerisier qui a dû donner quelques cerises cette année, au moins pour les oiseaux.
Excellente.
Avec une petite tonnelle qui permet de se réfugier un peu au moment où il fait très chaud comme aujourd'hui d'ailleurs.
Voilà.
Des plantes médicinales alors, qui n'ont pas forcément un grand intérêt aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que vous continuiez à vous soigner avec des artichauts ou autres. Ça a bien changé. Mais c'est vrai que ça permet de rappeler un peu qu'à l'époque des fonteuristes qui avaient besoin, eux, de soigner, eh bien, il y avait besoin de jardins, de plantes médicinales et puis de beaucoup d'ensembles. Ils avaient des fermes, des bâtiments avec des élevages qui permettaient justement de nourrir l'ensemble, même si la majeure partie de leur alimentation était surtout du poisson d'ailleurs. Je crois que c'était 70% de l'alimentation des fonteuristes était le poisson, donc d'où l'intérêt donc de ces grands étangs, de ce grand étang dont on a parlé tout à l'heure. Voilà pour le jardin des plantes aromatiques. On va se diriger vers le cimetière et puis la chapelle des saints. Voilà, nous sommes ici dans le cimetière des Sœurs. Alors, un cimetière qui est toujours en activité. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'activité au niveau d'un cimetière, mais c'est vrai que c'est un cimetière qui est toujours où il y a toujours des inhumations. Alors, ce qui impressionne toujours au moment des journées du patrimoine, c'est qu'on a des tombes qui sont très simples, une plaque, un petit rosier qui est entretenu. C'est une volonté ?
Oui, c'est une volonté de simplicité.
Exactement, une simplicité avec des tombes qui sont renouvelées, si je puis dire. Alors moi c'est vrai que je donne souvent l'exemple, hein, la tombe de Sœur Marie de Magdala, qui était historienne, hein, de la congrégation, une femme très 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 gentille. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de visiter les lieux importants de la congrégation avec elle en voiture un mois d'août il y a quelques années. Voilà, un petit cimetière. Alors on peut pas parler d'un cimetière grave, mais c'est vrai que c'était empreint de sérénité, avec un petit monument, hein, qui est sous l'escalier, qui permet de rappeler, je crois, le souvenir des cinq premières sœurs, hein, qui étaient ici au sein de la congrégation. On va entrer dans la chapelle, la chapelle des saints. Alors j'aime à dire que quand on entre dans cette chapelle, on rentre d'abord dans la chapelle des fondateurs, c'est-à-dire qu'André Hubert Fournier et Jeanne Elisabeth ont été inhumés ici en tant que fondateurs de la congrégation. Et on ressort d'ici, on ressort ensuite de la chapelle des saints, puisqu'ils sont ressortis, eux, en tant que saints de l'Église. Voilà, donc une jolie petite chapelle avec des sarcophages, hein, qui ont été remontés de la crypte qui se situe sous nos pieds, je crois. Hein. Vous avez les dates de...
Canonisé de André Hubert le 4 juin 1933.
Et Jeanne-Élisabeth qui était un peu plus tard.
Jeanne-Élisabeth le 6 juillet 1947.
Pareil, ça a dû être, je suppose, un événement, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de saints dans la Vienne. On a les anciens, les saints Porcher.
Oui,
les...
ce sont deux saints qui sont de chez nous, qui ont foulé cette terre et qui sont très peu connus, exactement, effectivement. Mais de grandes figures,
reconnues aussi par l'Église, puisque vous êtes une congrégation de droit papal, vous dépendez directement du Vatican.
Oui, hein, c'est ça, oui.
C'est ça, donc voilà, on voit la reconnaissance de l'Église de ce côté-là, c'est vraiment très très important. Un beau petit ensemble, là, qu'on vous permet de découvrir au moment des journées du patrimoine. Vous êtes aussi ouvert toute l'année, vous accueillez les gens toute l'année, hein, que ce soit en pèlerinage ou en visite, on peut venir vous voir, frapper à la porte et demander à visiter.
Oui, tout à fait, beaucoup de groupes viennent en pèlerinage, des écoles, des paroisses, quelquefois des randonneurs.
Oui.
Beaucoup de vacanciers qui sont à la Bussière, par exemple. Alors la maison est ouverte. Beaucoup de personnes pensent que c'est fermé, que ce n'est pas visitable, mais la maison est ouverte. Et pour être sûr d'être accueilli, d'être bien accueilli et d'avoir une visite guidée, il faut simplement peut-être téléphoner auparavant. Voilà.
Alors c'est vrai que les gens même de l'appui à l'époque ne connaissaient pas forcément leur congrégation. Hein. Je me rappelle d'un article dans la presse il y a quelques années qui disait « mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ces murs ?» Ces murs, on le voit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, depuis le Covid, on a la chance d'avoir une ouverture qui a été faite à la demande de l'architecte des bâtiments de France, je crois, hein, qui permet avec une nouvelle grille de voir véritablement cet ensemble qui est magnifique.
Oui, c'est un patrimoine qui appartient à chacun. Voilà, et qui est à offrir à tout le monde, je crois.
Exactement. C'est ce que je disais en présentation. Certainement l'un des plus beaux monuments de la Vienne. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et puis, je le démontre à chaque fois lorsqu'on visite la Grande Chapelle. Et puis surtout, l'un des derniers bâtiments vivants, puisqu'on a ici donc les Sœurs, bien évidemment. Et puis les EHPAD, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monuments de la Vienne, qui sont abandonnés, hein, de tout le monde. Là, on a vraiment une vie en permanence. Voilà, nous sommes toujours sur RE603.7 et les chemins de traverse au cœur de la congrégation des Filles de la Croix, en compagnie de Sœur Annie. Nous sommes ici dans le lieu d'accueil, au cœur du patrimoine historique, hein, puisque nous sommes au cœur des caves du XIIe siècle, véritablement, avec un lieu d'accueil, pas mal de panneaux, Sœur Annie, des panneaux de présentation de l'appui et des fontevristes et de la congrégation.
Oui, c'est l'histoire de l'appui, de sa construction, des fontevristes. Et puis les Filles de la Croix dans l'histoire et aujourd'hui.
Voilà. L'idée, c'est de permettre aux gens qui viennent visiter d'avoir véritablement un accueil dès le départ et de pouvoir rentrer, se plonger dans l'histoire de la commune et puis de sa congrégation.
Tout à fait.
Un lieu donc qui a été restauré, qui au départ était véritablement des caves. Le sol a été, si je me souviens bien, relevé de quelques centimètres, légèrement relevé. Les voûtes ont été enduites. Tout simplement, puisque pour éviter que les petites pierres ne tombent peut-être sur les visiteurs, un lieu magnifique à visiter, avec donc deux parties, la partie accueil ici pour le public, qui doit faire peut-être une cinquantaine de mètres carrés, peut-être un peu plus, et puis la deuxième partie, donc qui est un lieu de repos peut-être.
Oui, c'est un salon on peut dire un salon qui est aménagé pour les groupes qui viennent réfléchir, pour les personnes qui veulent vivre un jour ou deux de solitude, un endroit agréable, chaleureux.
Exactement, qui n'a pas besoin d'être chauffé, qui est au milieu de murs qui doivent faire pas loin d'un mètre d'épaisseur. Un lieu qui est en pleine modernité en même temps. J'aime me présenter, lorsqu'il y a une journée du patrimoine, aux enfants, le meuble qui est au fond, dans lequel il y a une télé en fait, ma sœur. C'est caché, mais il y a bien une télé là-bas, avec une cuisine aussi qui se trouve au fond. On peut aller faire un petit tour vite fait. Qui rappelle d'ailleurs un peu l'histoire des Fontevrisse, peut-être des sœurs aussi, je ne sais pas, au moment de la création, puisqu'il y a beaucoup de vignes. Enfin, il y avait en tout cas beaucoup de vignes jusqu'à l'apparition du phylloxéra dans la région. Et peut-être le souvenir par rapport à ça, ce sont toutes les bouteilles qui sont entreposées dans la...
Qui sont vides.
Oui, qui sont vides. Qui sont vides. Alors, je ne sais pas si le saucisson, lui, est d'époque, celui qui sèche depuis des années.
Non, il n'est pas d'époque. Non, il n'est pas d'époque. Mais il a quand même 2-3 ans.
Oui, voilà, oui, au moins, vous voulez échanger depuis, mais c'est vrai qu'il est, voilà, il est là. Un bel endroit qui vous sert de temps en temps.
Qui sert de petite salle à manger pour des groupes qui viennent pour pique-niquer, qui ne prennent pas les repas là, avec d'autres groupes. Voilà, c'est avec une petite kitchenette. Avec possibilité de réchauffer les plats.
Ouais, je me rappelle, il y a quelques années, c'était juste après le Covid, où nous avions fait une soirée d'ailleurs ici, juste avant les Journées du patrimoine. C'est vrai que c'est un endroit qui est agréable, au milieu de ces murs épais, je le disais, un mètre d'épaisseur. On est au cœur du XIIe siècle et on le sent bien, on est bien dans ce lieu. Quoi. On va continuer la visite en allant du côté du cloître, qui est un lieu là aussi magnifique, qui est un peu plus récent, puisqu'il est, lui, de 1933. Nous sommes là donc au cœur du cloître qui a été reconstruit en 1933 autour des bâtiments donc de la congrégation.
Oui, 1033 et 68, je crois.
D'accord, oui. Qui permet justement de clore un peu l'espace. Cet espace aujourd'hui, donc, c'est l'aile fontevriste du XIIe siècle et les siècles suivants. C'est en face de nous l'EHPAD. L'EHPAD, c'est 90 lits, je crois. Avec,
90 lits, oui. 90 personnes, oui.
Avec des bâtiments pareils, XIIe siècle et XVe siècle, des élévations.
Non, je pense que ce bâtiment, le sous-sol, la grande salle à manger au sous-sol, date de l'époque des Fontevrisse, je crois, mais qui a été surélevée et qui a dû être construit par les filles de la Croix dans les années 1840, quand la congrégation prenait de l'essor. Et moi, j'ai fait ma formation dans ces bâtiments-là. C'était des grands dortoirs avec des grands rideaux.
D'accord.
Voilà, et qui ont été aménagés. Alors, au fur et à mesure de l'histoire, nous essayons de donner sens à ce patrimoine et de le gérer. Et depuis l'an 2000. Depuis 2000, toute cette aile a été transformée en EHPAD.
D'accord, oui, parce qu'au départ, l'EHPAD se trouvait de l'autre côté de la rue.
De la rue, ainsi qu'un collège.
Avec un collège. Là, donc, on est ici. Alors, quand on traverse en fait les bâtiments aujourd'hui de l'EHPAD, on s'apercevrait qu'il y a un portail en fait de l'autre côté, sur lequel il y a un petit fronton avec EB, des initiales, qui ont une histoire en fait par rapport à Jeanne-Élisabeth.
Oui, c'était les initiales d'Éléonore de Bourbon. Et quand Élisabeth Bichet des Âges a voulu acheter ces bâtiments, elle a vu comme un clin d'œil de Dieu, peut-être. Retrouvant ses propres initiales, Élisabeth Bichet.
Voilà. Puisque Jeanne-Élisabeth, au départ, ne souhaitait pas, on peut dire, venir ici. C'était plutôt l'abbaye de Ville-Salem, si j'ai bien compris. Et elle a été aidée en cela par Marie Pichon, qui était une ancienne fontevriste, qui était restée après la disparition des fontevristes, et qui est venu rejoindre ensuite les sœurs, qui était une amie de
la sœur d'André Hubert.
Voilà, exactement, une amie de la sœur d'André, et qui a permis cette rencontre entre Jeanne-Élisabeth et ses lieux, puisque Jeanne-Élisabeth, de ses fonds propres, avec des aides, je crois, quelques aides, mais a racheté l'ensemble de ses bâtiments.
Elle a mis toute sa fortune pour racheter ce qui restait du monastère de Fontevrisse.
Oui, voilà, qui était pas mal en ruine, puisqu'il a fallu complètement déconstruire donc l'église à l'époque, la transformer pour construire cette grande chapelle dans laquelle on va rentrer dans quelques minutes. On est ici donc au niveau du cloître qui a été transformé avec des plaques sur le gazon qui représentent les différentes...
Alors les plaques représentent les différents pays avec les années de fondation ou de fermeture quelquefois. On retrouve la Chine, la Hongrie, le Congo, les différents pays de, où nous avons été, voilà. Où nous sommes aussi à l'heure actuelle.
Avec un bassin, alors ce qui était un bassin à l'époque, il est beaucoup moins aujourd'hui, ce sont plus difficile de mettre de l'eau, qui rappelle un peu qu'il y a quelques années, on avait un bélier hydraulique, hein, qui est toujours d'ailleurs existant au niveau du petit étang, qui permettait de remonter l'eau ici jusqu'à la congrégation et d'alimenter tout le rez-de-chaussée. Voilà pour la petite histoire. C'est vrai qu'on a un olivier au milieu, un arbre de pin, on en a besoin aujourd'hui de la peine.
C'est un symbole de paix au cœur de la, au cœur du site, mais c'est aussi un symbole en mémoire des années d'exil passées par Saint-André-Hubert en Espagne durant la Révolution française. 5 années où il ne pouvait plus exercer son ministère, où il passait son temps à visiter les malades, les prisonniers, à prier. Et c'est là que s'est forgé aussi, que s'est approfondi ce qu'il permettra de vivre plus tard.
Écoutez, je vous propose de nous diriger en direction de la chapelle. Voilà, avant d'entrer dans la chapelle, nous sommes ici devant un buste, hein, le buste de Maria Laura, une sœur, une fille de la croix, donc, qui a été assassinée il y a quelques années maintenant en Italie, je crois.
Oui, sœur Maria Laura, c'est une fille de la croix qui a été béatifiée en 2021. Elle a donné sa vie le 6 juin 2000. Répondant à l'appel de jeunes en détresse, elle est sortie de nuit suite à un appel. Et cet appel était en fait un piège que lui tendaient des jeunes en détresse qui voulaient se prouver que le mal était plus fort que le bien et qui voulaient aussi qu'on parle d'elle parce que la vie était trop monotone dans leur petite ville de Chiavenna. Elles ont tendu un piège et elles l'ont assassinée, on peut dire comme ça. Et ce que nous savons d'elle, ce sont ces jeunes mêmes qui nous l'ont révélé lors du procès qu'il y a eu à la suite. Maria Laura a donné sa vie. Ses dernières paroles ont été pour ces jeunes, leur ouvrant en fait un avenir, leur disant, mais elle n'a pas pensé à elle, elle a pensé à ces jeunes, leur disant, mais ne faites pas cela, vous gâchez votre avenir. Et sa dernière parole a été « Seigneur, pardonne-leur ». Une parole de pardon qui leur ouvrait le chemin. Et effectivement, ces jeunes-là, aujourd'hui, sont des jeunes femmes de 40 ans qui se sont peu à peu reconstruites et qui regardent vers l'avenir, essayant d'assumer leurs gestes, ce qui n'est pas facile.
En effet, oui. Écoutez, je vous propose une petite pause musicale et on rentre ensuite dans la grande chapelle. À tout de suite.
Un jour, une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. N'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi, vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. La dame dit, vous les forts, gardez la paix. comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore, et le monde attend le temps de l'alléluia, alléluia, 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 alléluia.
Toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission particulière, aujourd'hui très spéciale, puisque nous sommes à l'Appuy, au cœur de l'ancien prieuré fontevriste de l'Appuy, donc au sein de l'actuelle congrégation des Filles de la Croix, en présence de Sœur Annie qui m'accompagne donc pour vous faire découvrir ce lieu exceptionnel. Un lieu d'ailleurs que je vous propose de venir découvrir au moment des Journées du Patrimoine en septembre. Vous venez le samedi, le dimanche, vous venez ici sans inscription et on vous présente les lieux, un peu comme je le fais actuellement. Écoutez, je vous propose de rentrer dans la grande chapelle. Alors, j'aime bien dire quand on rentre ici aux gens de rentrer d'abord en silence et puis de s'exprimer après. J'étais il y a quelque temps à Saint-Savin avec Jean-Luc Dorchy, qui est le président de l'EPCC, l'organisme qui gère l'abbaye de Saint-Savin, qui me parlait, lui, lorsque les gens montent à l'étage et lorsqu'ils voient les fresques, de l'effet waouh. Je peux vous certifier qu'ici, lorsque vous rentrez dans la grande chapelle, c'est pas un effet waouh, c'est multiplié par 10, parce que cette chapelle est vraiment magnifique.
Je garde le souvenir d'un petit gamin de 4-5 ans dans les bras de sa mère entrant dans cette chapelle et son regard émerveillé, c'était waouh.
C'est ça, exactement. Ouais. Alors je ne devrais pas le dire, à une époque, on a fait quelques récitals ici avec mon fils notamment. On montait dans les petites coursives en haut prendre des photos. Vu d'en haut, c'est encore plus beau. Quoi. Je vois qu'il y a des échafaudages, des travaux actuellement.
Les pigeons nous ont visités, donc nous essayons de réparer les vitraux qui sont cassés.
Voilà. Avec donc un souvenir fontevriste quand même dans cette grande chapelle, avec un portail en bois qui est derrière nous là actuellement, qui permet d'accéder justement aux vestiges de l'ancienne grange du Marseillais, avec cette poutre en bois qui est le vestige de cette ancienne grange, avec cette petite fente derrière qui permettait à André Hubert Fournier de cacher ses outils de messe.
De cacher le ciboire avec la présence de l'Eucharistie.
Voilà. Et des portraits sur les murs qui sont...
Les portraits, ce sont les portraits des différentes sœurs qui ont été responsables de la congrégation au fil des années.
Voilà, puisque les sœurs ici au sein de la congrégation sont élues, il faut le dire, sont élues pour 4 ans, renouvelables une fois.
Non, pour 6 ans, renouvelables une fois.
C'est vrai que c'est 4 ans, c'est les présidents des États-Unis. Oui. Voilà, donc avec une grande chapelle magnifique, hein, des vitraux qui sont là aussi du 19e siècle, qui ont une représentation, une signification particulière.
Alors quand on rentre ici, ce qui attire le regard, c'est surtout le vitrail central du Christ. C'est un vitrail qui touche tout le monde par sa luminosité. C'est le vitrail du Christ en croix qui donne sa vie. Et toute cette lumière qui reflète, qui dit notre foi dans la résurrection, dans une vie plus forte que la mort. La mort et le mal n'ont pas le dernier mot. Voilà. Et c'est un très beau vitrail. Et au pied de ce vitrail, il y a Jeanne-Élisabeth et André Hubert.
D'accord. Et là, au niveau du patrimoine, au niveau de l'esthétique, au niveau de l'architecture, on a ces grosses colonnes qui sont là, qui supportent l'ensemble, c'est vraiment magnifique. On a un peu l'impression de se sentir, alors la grandeur n'est pas la même, mais à Notre-Dame de Paris, quand on regarde, c'est véritablement la même représentation en fait.
Oui, toute proportion gardée.
Toute proportion gardée, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est magnifique.
Mais
c'est...
il est dit que le pape Jean XXIII, quand il était cardinal à Paris, nonce apostolique, est venu dans cette chapelle, et c'est exclamé, mais ce n'est pas une chapelle, c'est une cathédrale.
Avec, notamment, vous parlez du pape, des visites, hein, je me rappelle, il y a quelques années, Monseigneur Sarah, qui est venu ici en toute discrétion, je crois, qui était numéro 4 du Vatican.
Oui, je n'ai pas souvenir, mais je pense, oui.
Nous sommes ici en face des châsses, hein, des représentations donc, de Jeanne-Élisabeth et André-Hubert Fournier. Elles sont magnifiques, hein, ces ornements.
Oui, c'est une représentation d'André-Hubert qui porte ses ornements de prêtre, ses ornements sacerdotaux, qui a les yeux ouverts.
Exactement. Voilà. Et Jeanne-Élisabeth, pareil, qui est avec ses habits de...
Jeanne-Élisabeth est avec un costume noir. Pourquoi un costume noir? C'est le costume que portaient les femmes, les paysannes de l'époque. Parce que lors de la rencontre d'André Hubert et Jeanne-Élisabeth, André Hubert a dit à Jeanne-Élisabeth, mais si vous voulez être proche des pauvres, il faut que vous changiez vos vêtements et que vous preniez l'habit des paysannes. C'est ce qu'elle a fait. Voilà.
Là aussi, un nouveau reliquaire, on veut dire, qui a été installé, celui de Maria Laura, avec une petite pierre.
Oui, c'est le reliquaire de Maria Laura avec une pierre qui rappelle le lieu où elle a donné sa vie, où elle a versé son sang pour la vie. Voilà. Et où elle nous dit que la vie est plus forte que la mort aussi, que le mal n'a pas le dernier mot. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs les jeunes qui l'ont assassinée. Quand on leur a demandé lors du procès, mais qui a été la plus forte, c'est elle. C'est la vie qui a été plus forte que le mal. Et aujourd'hui, ces jeunes-là reconstruisent leur vie et nous disent qu'un avenir est toujours possible.
D'où l'importance peut-être pour certains du pardon.
Du pardon, mais aussi des jeunes qui étaient en soif de reconnaissance. Et l'une d'elles a dit « La prison a été le moment où j'ai pu vraiment me reconstruire parce que j'ai été écoutée comme jamais je n'ai été écoutée. » Et cela nous interroge aussi aujourd'hui.
Exactement. À propos d'écouter, si on se retourne, on voit un orgue qui est là-haut, qui est toujours en fonctionnement.
Ah oui, il fonctionne toujours, oui. Toujours. Et lors de la marche gourmande, il y a toujours M. Precastelli qui joue de l'orgue. Oui.
Exactement, la marche gourmande sur l'appui qui vous permet de visiter le patrimoine et de visiter notamment cette magnifique, magnifique chapelle. On va en ressortir, on va retourner tranquillement du côté du cloître. Et, j'aurais aimé, si possible, qu'on aille tiens, dans la cour au niveau de l'EHPAD, avoir ce fronton. Bah, nous sommes donc ici dans la cour de l'EHPAD, hein, la cour intérieure, avec une seconde chapelle. On a combien de chapelles, en fait, dans la congrégation? Il y en a trois ou quatre, hein.
Une, deux, trois, quatre, une au moulin, une aussi.
Voilà. Oui, voilà, au moins cinq chapelles. Avec cette chapelle qui est en face de nous, qui est une chapelle qui sert à l'EHPAD, qui est chauffée, celle-ci, par rapport à la grande chapelle, qui l'hiver est pratiquement inaccessible, vu les températures.
Elle était construite autrefois pour les sœurs en formation. C'était D'accord. La chapelle de noviciat, qui maintenant est ouverte aux personnes de l'EHPAD. Et nous célébrons l'Eucharistie pratiquement tous les samedis.
D'accord. Et là, c'est vrai qu'on est dans une cour intérieure avec la maison d'André Hubert, cette chapelle. Quand on regarde par le portail sous la chapelle, on voit là aussi une grotte qui rappelle celle de Lourdes, avec Marie, hein, et puis des jardins, des pommiers, je crois, hein, qui sont...
Des pommiers, oui.
Des pommiers, voilà, c'est ça. Un très bel endroit, un endroit reposant. Et puis les pads, c'est aussi un endroit où on a un accueil pour les personnes atteintes d'Alzheimer, je crois, depuis quelques années.
Il y a une unité d'une quinzaine de personnes, je crois.
Voilà, donc un endroit, alors on ne va pas parler d'endroit magnifique, mais en tout cas, un endroit qui est à recommander pour celles et ceux.
Sens.
Voilà, qui a du sens, c'est vrai, on est véritablement dans des bâtiments, des bâtiments historiques, et puis on est dans une ambiance, en même temps, je le disais tout à l'heure, dans un lieu de vie, véritablement, contrairement à certains monuments de la Vienne où on est dans un endroit un peu austère. Vous êtes combien de sœurs aujourd'hui encore au sein de la congrégation?
Nous sommes aux environs de 300, je crois, voilà. Entre 200, 270, 300, je ne sais pas exactement.
Voilà, des sœurs qui ont, pour la majorité, travaillé. Vous n'êtes pas des sœurs cloîtrées, vous êtes des sœurs qui travaillaient, qui avaient une vie véritablement professionnelle.
Oui, c'est-à-dire que lorsque nous avons été fondés par André Hubert et Jeanne-Élisabeth, le désir, je crois, de Jeanne-Élisabeth et d'André Hubert, c'était de donner, en pensant peut-être à Marianne, la petite servante, qui ne savait ni lire ni écrire, ils ont dit elles seront employées chacune selon ses talents. Et elles feront toute espèce, dans le langage de l'époque, c'était elles feront toute espèce de bonnes œuvres, peu importe ce que nous faisons, que nous soyons cuisinières, que nous soyons employées, que nous soyons médecins, que nous soyons, quel que soit le titre, peu importe, nous sommes toutes sœurs et au service de ce monde-là, au plus proche des plus petits et des gens simples. Donc nous avons exercé, nous exerçons, nous sommes souvent insérés en petites communautés auprès des gens, pour être proche d'eux et pour dire une présence d'un Dieu qui aime.
Sans être indiscret, vous faisiez quoi comme profession ?
Alors moi, j'ai été toute ma vie au service des jeunes, dans le service des jeunes.
Voilà, puisqu'on a des institutrices, on a des infirmières, on a beaucoup de gens comme ça au sein de la congrégation, répartis, donc on l'a dit, dans de nombreux pays à travers le monde, tout travail, hein, toutes viennent un jour ou l'autre ici à la congrégation, à la maison mère.
Alors ici, c'est la maison mère, hein, c'est-à-dire le lieu où nous aimons revenir, où nous nous retrouvons au niveau international pour nous ressourcer, pour retrouver un petit peu la sève de nos origines et pour être envoyés à nouveau dans le monde. Et tous les 6 ans, nous nous retrouvons pour relire ce que nous vivons et pour écouter ce monde d'aujourd'hui et pour écouter aussi là où Dieu nous envoie aujourd'hui, quelles sont les urgences et les priorités avec ce que nous sommes, dans notre simplicité, dans notre pauvreté peut-être, mais de tout notre cœur.
Voilà, donc avec un endroit où vous revenez régulièrement. Il faut savoir qu'à l'appui, hein, la congrégation et bien évidemment l'EHPAD qui est une association, hein, je crois, c'est aussi un volume d'emplois important. Ce sont 130 emplois à temps plein, me semble-t-il. Donc c'est véritablement important pour une commune comme la nôtre. On a la chance que vous ayez installé ici la maison mère. Au moins, on est sûr que celle-ci, on ne nous l'enlèvera pas et que dans des années encore, on aura à l'appui une rencontre spirituelle, une possibilité de rencontre spirituelle en tout cas.
Oui, ce qui est touchant, c'est que la chambre, la petite cellule, la chambre occupée par Jeanne-Élisabeth durant sa présence à l'appui, se trouve au cœur même de la maison mère. C'est ça. Et durant le Covid, c'était la sœur, la seule fille de la croix présente au cœur de l'EHPAD.
C'est ça, tout à fait, une petite pièce où on peut accéder. La maison aussi d'André Hubert est accessible, alors peut-être pas en permanence, je sais qu'au moment
de... est accessible,
voilà, oui. Au moment des journées du patrimoine, on évite de l'ouvrir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, oui, mais en journée, si les gens viennent, ils ont possibilité.
Oui, tout à fait, oui.
Eh bien, écoutez, Sarah Nie, je vous remercie pour cette visite de la congrégation des Filles de la Croix.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Sarah Nie. Nous étions donc au cœur du triangle d'or du Poitou, ici à l'appui sur le site, hein, de cet ancien prieuré fontevrise du XIIe siècle. Alors, je le répète, hein, il y a énormément de choses à voir, hein, au sein du triangle d'or du Poitou, qu'il s'agisse de Chauvigny avec sa cité médiévale, mais pas que, hein, vous allez à l'office de tourisme, vous allez voir qu'il y a énormément de choses. On essaiera d'ailleurs de faire une émission spéciale sur le patrimoine de Chauvigny d'ici quelques temps. Vous avez donc Saint-Savin et son abbaye classée au patrimoine mondial. Pareil, hein, je vous parle de Saint-Savin et son abbaye, mais vous avez aussi la vallée des fresques, vous avez aussi la fabrique du Point du Jour, hein, qui est un petit ensemble magnifique à découvrir. Voilà pour cet endroit. Vous avez donc Anglesur-Anglin et ses fresques pariétales, ses fresques préhistoriques, 15 000 ans d'âge. Alors c'est une reconstitution, hein, qui vous est présentée, un peu comme lorsque vous allez en fait à Lascaux, hein, vous ne voyez pas l'origine, tout simplement pour préserver les lieux. Anglesur-Anglin donc et ses fresques à unique au monde. Et sa forteresse qui surplombe la vallée de l'Anglin, un lieu magnifique à découvrir avec ses reconstitutions de temps en temps. Voilà, un endroit que je vous conseille sincèrement de découvrir. J'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de venir découvrir la congrégation des Filles de la Croix ici à l'appui, qu'elle vous aura donné l'envie surtout de venir découvrir l'ensemble du triangle d'or du Poitou. On essaiera de faire une émission d'ici quelques temps pour reprendre l'ensemble des sites à découvrir. Comme je le disais, qu'il s'agisse de Chauvigny, d'Angle-sur-Anglin, de Saint-Savin, mais il y en a d'autres. Il y a la Bussière, il y a Saint-Pierre-de-Maillet, un joli petit village, là aussi Saint-Pierre-de-Maillet, avec ses châteaux et ses rives, ses berges de la Gartempe. L'appui, bien évidemment. On va se quitter avec une belle chanson, une chanson de quelqu'un qui a vécu très très longtemps, hein, au sein du triangle d'or du Poitou, qui est décédé en 2001, qui a vécu donc ici entre Chauvigny, Anglet-sur-Anglin et Saint-Savin, qui a adoré ces paysages, c'est le moins qu'on puisse dire. Son épouse Kitty et sa fille Émilie, et ses petits-enfants d'ailleurs, hein, habitent toujours ici dans le secteur. Ce chanteur, c'est Gilbert Bécaud, qui nous chantait « Je reviens te chercher », qui nous chante d'ailleurs maintenant. Et nous, bah, on espère surtout vous revoir très prochainement ici, au cœur du Triangle d'Or du Poitou, ici, au sein de la Congrégation des Filles de la Croix, pourquoi pas, et nous le souhaitons en tout cas, peut-être donc pour les Journées du Patrimoine. Et bah, écoutez, merci, je vous dis à bientôt. Bon week-end, au revoir.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Chemin de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.